Vous êtes sur Allegre FM 93.1 pour une nouvelle émission de Lusitania. Aujourd'hui, nous recevons Cecilia Braschi pour nous parler de l'exposition Tersila Duamerau, exposition qui se déroule au Musée du Luxembourg jusqu'au 2 février 2025. Cecilia Braschi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc historienne de l'art, spécialiste de l'art européen et sud-américain du XXe siècle. Un vaste programme. Je ne reviendrai pas sur tout votre trajet, parce que je soulignerai juste pour cette émission votre intérêt particulier pour la scène moderne brésilienne. Aujourd'hui, vous travaillez en tant que chercheuse et commissaire d'exposition indépendante pour différents musées et institutions européennes. C'est bien ça.
C'est bien cela, oui.
Voilà, donc l'exposition Tersila Duamerau, organisée par le Grand Palais et le musée Guggenheim Bilbao, est présentée donc à Paris au musée du Luxembourg jusqu'au 2 février 2025.
Pour ensuite aller justement
à Bilbao,
au Guggenheim.
Voilà, ouais, écoutez, c'est très bien. Donc, quelques mots sur Tersila Duamerau, qui a vécu donc de 1886 à 1973. Artiste très renommée au Brésil, elle est peu connue en France, alors qu'elle a vécu à Paris pour y suivre des cours d'art. Elle y a fait de multiples rencontres d'artistes et c'est aussi à Paris qu'ont eu lieu ses premières expositions. Tersila Duamerau a eu une vie très riche et très variée. Elle a beaucoup voyagé en Europe. Elle a fait des allers-retours entre Paris et São Paulo. Et nous découvrons dans cette exposition diverses périodes de sa vie, avec ses recherches, ses évolutions, un travail inspiré des imaginaires traditionnels brésiliens et jusqu'à une représentation plus moderniste de la société, ainsi que ses liens avec de nombreux artistes tout au long de sa vie. Alors, Cecilia, dans le cadre de cette exposition, première grande rétrospective de l'artiste en France, quels ont été vos choix pour présenter l'œuvre de Tersila Duamerau?
Ah, alors, il s'agissait avant tout de présenter, comme vous l'avez dit, une artiste qui est très peu connue en France. Donc, il fallait faire découvrir l'œuvre dans son ensemble. Et qui, en même temps, est une artiste qui est très, très connue au Brésil et sur laquelle il y a eu déjà beaucoup d'expositions, beaucoup de recherches et des recherches très actuelles aussi. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de faire connaître Tersila Duamerau avec tout le bagage qui l'accompagne et avec des thèmes qui sont aussi très actuels aujourd'hui. Et vous le disiez, c'est la première rétrospective à Paris. Il y a eu d'autres expositions, notamment à la Maison de l'Amérique latine en 2005, consacrée aux années 20. Et il y a eu quelques présentations de ses œuvres dans des expositions de groupe où on la présente justement parmi les artistes parisiens des années 20. Cette exposition a pour ambition, bien sûr, de présenter cette période qui est peut-être la plus florissante.
Il me semble que je l'ai vue dans l'exposition sur les femmes.
Oui, pionnières
voilà,
justement, au musée du Luxembourg également, d'accord. Qui a toute une programmation, effectivement, autour des artistes femmes, qui a fait plusieurs expositions. Et d'ailleurs, c'est là où l'artiste a été remarqué et que le musée a donc aussi eu l'envie de faire cette rétrospective. Il y a eu une œuvre aussi au Petit Palais l'année dernière dans une expo qui s'appelait le Paris de la modernité, toujours sur tout le panorama artistique de Paris dans les années 20. Et ce qui est moins connu aussi au Brésil, c'est la période où Tersila Duamerau revient au Brésil, donc toute la période qui va des années 30 aux années 60. Beaucoup même de brésiliennes qui adorent cet artiste ne savent pas qu'elle a continué à peindre jusqu'aux années 60. Donc, quand je dis rétrospective, c'est véritablement cela, dans le sens où on présente toute sa carrière. Et j'insiste sur ce point parce que parfois, surtout dans les cas des artistes femmes, c'est plus facile de se concentrer sur les périodes un peu exceptionnelles, comme ça a été pour Tersila Duamerau, qui a eu une période très fortunée où elle a pu faire des choix aussi peu conventionnel. Et puis il y a eu une phase qui était plus difficile aussi parce que c'est pas toujours facile pour des artistes femmes de faire carrière, et donc c'est important aussi de montrer ces moments différents qui l'apportent à faire des choix différents, esthétiques et personnels.
Oui, c'est ça, elle a eu des revers de fortune comme ça arrive à tout le monde, mais
Mais dans l'art, on a parfois tendance à ne voir que le côté positif, mais c'est intéressant de voir toute la trajectoire d'une artiste et comment elle réagit aux situations qui l'entourent. Parce que justement, quand on, le titre de l'exposition qui est « Peindre le Brésil moderne » fait aussi allusion au fait que Tarsila do Amaral a accompagné la modernité brésilienne pendant toute la période de sa vie. Le pays a connu des transformations très importantes.
Elle a vécu longtemps, en peu de temps. Plus, donc,
oui, mais entre les années 20 et les années 60, le Brésil s'est complètement transformé. Et elle, elle a su accompagner ça, évoluer elle-même au fil de ces changements. Donc, c'est ça qui, que je trouve aussi intéressant dans son œuvre.
Mm-hmm. Alors, en fait, Tarsila est issue d'une famille cultivée, de grands propriétaires.
Très cultivée et très aisée.
Et très aisée. Et c'est ce qui lui a permis de voyager à Paris.
Exactement. Oui.
Alors, quelle est l'importance, en fait, de cette époque parisienne dans son œuvre?
Oui, pardon, je me permets d'ajouter qu'effectivement, ça lui a permis de voyager à Paris. Il y avait d'autres artistes qui voyageaient aussi avec des bourses, pour qui, effectivement, c'était beaucoup moins simple. Donc, c'est aussi un autre aspect auquel on ne pense pas, mais effectivement, les moyens pour Tarsila do Amaral étaient très importants, parce qu'elle a eu à la fois les moyens de sa famille, et puis aussi un père qui l'a beaucoup encouragée dans sa carrière. Elle a été,
mais ce n'est pas seulement les moyens financiers, mais aussi c'était aussi une femme qui avait une culture.
Qui avait une culture, et donc qui l'a encouragée dans ce choix qui n'était pas très conventionnel pour une femme de sa classe sociale. Elle était déjà mariée, elle décide de se séparer, ce qui n'était pas non plus possible et facile à l'époque. Donc, et alors l'importance de cette période, c'est intéressant parce qu'on voit deux périodes à Paris. Et donc on imagine en fait que les artistes qui vivent dans des pays périphériques entre guillemets, dans le sens où le centre de l'art moderne à l'époque était vraiment Paris et l'Europe, pas encore les États-Unis, plus tard il y aura aussi New York, mais là c'est vraiment Paris resté le cœur de l'art moderne. Pour les artistes qui vivaient dans des pays éloignés, venir à Paris était très important pour s'affirmer. Et on pourrait croire que c'est là où elle apprend où elle décide de devenir une artiste moderne. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on voit très bien que la première fois où elle vient, elle peint de peintures très belles d'ailleurs, mais encore dans une veine très académique au début des années 20. Elle arrive comme une Brésilienne, justement, très cultivée des classes élevées, qui était imprégnée de culture française depuis son enfance. Donc, elle suit une carrière, une formation tout à fait académique. Ce qui pourrait surprendre, parce que quand elle arrive en 1920, il y avait au salon qu'on pouvait voir à Paris, au salon d'automne, par exemple, elle avait découvert Dada, le cubisme, mais on a l'impression que ça ne la concerne pas pour l'instant.
Mais les femmes, elles ne pouvaient pas aller dans tous les cours, il me semble. Non,
alors, à l'époque, si elles pouvaient... c'était l'Académie Julien qu'elle fréquente, qui était la première qui avait été ouverte aux femmes à la fin du 19e siècle. Par contre, elles ne pouvaient pas faire tout genre de peinture. Donc, elles avaient des classes séparées. Elle fréquente aussi d'autres... Elle connaît d'autres réalités, mais c'est comme si... ça ne l'intéresse pas plus que ça. Ensuite, elle revient à Sao Paulo et elle découvre une nouvelle scène culturelle qui est en train de naître justement pendant son absence à Paris. Et donc avec Anita Malfatti, une autre artiste femme vraiment pionnière, parce que c'est elle qui a fait la première exposition d'art véritablement moderne en 1917 à Sao Paulo, et avec Osvaldo Andrade, avec Mario de Andrade, notre écrivain, et Paolo Menotti del Picchia. Ils forment ce groupe qui s'appelle le groupe des cinq, et donc ils ont un projet qui se veut vraiment moderne, mais à Sao Paulo, non pas à Paris. Et donc leur projet, c'est d'inventer un langage brésilien et moderne. C'est à ce moment-là qu'elle retourne à Paris, et cette fois-ci, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a son projet à elle depuis son pays, qu'elle a envie de se confronter avec la modernité parisienne. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas... on pourrait penser que les artistes arrivent vierges de la formation et qu'à Paris, la modernité s'éclose. Et en fait, on voit bien qu'en fonction de ce qu'on cherche, on peut trouver des choses très différentes à Paris dans les années 20.
Oui, bien sûr. Et en fait, cette rencontre... avec Oswald d'Andrade, ils étaient déjà en couple, non pas à l'époque.
Ils se rencontrent donc en 1922, ils sont en couple, mais ils ne peuvent pas le manifester, montrer, parce qu'elle elle arrive à obtenir le divorce en 1926.
D'accord.
Elle était séparée depuis 1913. Et donc, elle peut se marier avec Oswald d'Andrade en 26. Et donc, de 22 à 29, ils sont ensemble. Et jusqu'en 26, il est donc... au Brésil, il ne fallait pas trop que la famille sache. Le fait d'être à Paris, ça leur permettait aussi d'être en couple de manière plus libre, c'est sûr. Et donc, c'est à ces moments-là, avec Oswald d'Andrade, qui rentre en contact notamment avec Blaise de Sandrart, donc le poète... suisse qui était basé à Paris et qui avait une grande affinité littéraire aussi avec Oswald d'Andrade et qui introduit le couple dans tout un milieu intellectuel très fascinant qui va de Cocteau, Léger, Satie, Brancusi, même Picasso.
On va reparler de ça tout à l'heure, on fait une petite pause musicale.
Oi, sapateia, sapateia. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela.
Não quero flores, nem coroa com espinho. Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho.
Quando eu morrer.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors nous sommes en train de parler donc de Tercilio do Amaral, dont l'exposition au Musée du Luxembourg dure jusqu'en février 2025. Donc, on a l'impression que Tercilio est soumise à des stéréotypes quand elle est en France, mais qu'elle s'en empare pour se fabriquer une identité propre.
Oui.
Ses autoportraits, d'ailleurs, au-delà d'une recherche d'identité, semblent exprimer la construction d'un personnage. Donc, elle s'approprie l'iconographie brésilienne, mais on a l'impression qu'elle en fait un symbole d'émancipation.
Oui, alors c'est assez complexe et assez intéressant parce qu'effectivement, elle rencontre les mêmes ou différents types de stéréotypes, que ce soit au Brésil et en France. Mais quand elle est à Paris, elle est confrontée à deux stéréotypes en réalité, le fait d'être brésilienne et le fait d'être femme. Et ce personnage de femme artiste moderne brésilienne n'existe pas encore et elle doit effectivement l'inventer. Surtout alors quand on voit, quand on lit la correspondance avec tous ses amis parisiens ou de Oswald d'Andrade avec d'autres personnes, on voit que tout le monde fait toujours référence à Tarsila do Amaral comme cette belle femme, cette élégante femme. Mm-hmm. Donc sa beauté, son élégance, on a toujours l'impression qu'il passe avant son habileté de peintre. Et aussi qu'en tant que brésilienne, on attend d'elle une peinture exotique, une peinture colorée, une peinture qui est un peu dépaysante par rapport à ce qu'on connaît à Paris. Et donc elle est consciente de ça, elle observe ce que le public parisien lui demande en quelque sorte, parce qu'il faut aussi savoir que la reconnaissance de Paris était quand même une reconnaissance tout court qui lui permettait de s'affirmer et de revenir dans son pays avec une sorte d'étiquette d'artiste reconnu. Donc parce que en Brésil à l'époque il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de musée d'art moderne et les collectionneurs d'art moderne étaient très rares. Donc cette réception parisienne était très importante. Et donc elle joue véritablement avec ces stéréotypes. Elle les assume en quelque sorte, donc elle décide effectivement de se présenter en femme très élégante, très habillée, et de se créer une représentation de soi-même à travers son apparence. Donc comme tout le monde ne regarde que ça, et du coup elle décide de créer un style. Mm-hmm. Donc c'est manteau, donc il y a ce fameux autoportrait qui s'appelle, l'autoportrait même s'appelle manteau rouge, en français d'ailleurs, qui est un manteau du couturier Patou, qui prend tellement d'importance qu'il identifie même l'autoportrait. Et puis cette coiffe qu'elle avait avec les cheveux tirés en arrière et des grands boucles d'oreilles toujours, un maquillage très soigné et très fort, très marqué.
Et, il y a beaucoup d'autoportraits. Elle a fait beaucoup d'autoportraits.
Elle en a fait plusieurs dans l'exposition. Donc on en montre trois qui ont été faits à la même époque, donc entre 1923 et 1924. Et c'est justement intéressant de les comparer. D'ailleurs, c'était quand même un exploit d'arriver à voir les trois parce que c'est des œuvres qui sont très rares et très demandées. Et donc là on voit, comme vous disiez, il y a cette double identité brésilienne et parisienne, et on a presque l'impression que d'un côté elle se présente aux Parisiens comme une véritable brésilienne quand elle se représente en caipirinha. Donc le caipirinha, c'est la jeune fille de la campagne en quelque sorte, mais c'est un peu
ce qui est un peu paradoxal, puisqu'elle venait de la ville.
Et oui, donc elle se représente comme elle était jeune fille dans la fazenda de famille, sauf que c'était c'était une grande propriété. Mais elle se rapproprie cet univers rural, populaire de son pays. Et donc, c'est un portrait d'ailleurs qu'elle fait dans un langage ouvertement cubiste. C'est un très beau tableau dans un langage vraiment moderne cubiste. Et puis il y en a un autre où et on dirait que là elle se montre plutôt aux Brésiliens comme une femme sophistiquée parisienne très chic, avec donc ce manteau rouge dont je vous parlais. Donc il y a cette ambivalence, et puis il y a un autoportrait où elle se représente juste par son visage, toujours très bien maquillée, bien coiffée, et ses grandes boucles d'oreilles qui la représentent. Et même Osvaldo Andrade, dans le poème que lui consacre, lui fait un portrait, parle justement lui aussi de ses grandes boucles d'oreilles qu'il a connotées. Et alors cet autoportrait, c'est un peu comme la marque de soi-même en fait. Elle utilise cette iconographie comme une véritable marque presque. Et donc elle l'utilise pour toute la couverture de ses catalogues. Et donc elle a vraiment choisi son image et comment elle veut se représenter. Mm-hmm. Elle commence à signer Tarsila avec son prénom. Et voilà que l'artiste est créé.
Caipirinha vestida por Poiret. A preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly. Nem as exclamações dos homens, em Sevilha, à tua passagem entre brincos, locomotivas e bichos nacionais, geometrizam as atmosferas nítidas, congonhas de escora sobre o pálio das procissões de Minas, a verdura do azul claxone cortada sobre a poeira vermelha, arranha-céus, fordes, viadutos, um cheiro de café no silêncio emoldurado.
C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que alors
Ses premiers pas donc, dans le modernisme et le cubisme lui permettent de s'affranchir de la figuration académique qui était sa première formation, mais elle réinterroge sa culture brésilienne, mais elle a fait sienne en fait, elle s'en sert, c'est vraiment important pour elle de montrer qu'elle est brésilienne et de jouer en fait de ses symboles. Oui. Il y a l'œuvre Caipirinha qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, on la voit avec... c'est une grande feuille.
Donc, oui, c'est cet autoportrait en quelque sorte dont je viens de parler, parce que donc elle raconte à ses parents qu'elle est en train de faire ce portrait, cette peinture où elle se représente comme elle était enfant dans la fazenda. Et donc elle a une grande feuille de bananier. Elle raconte que quand elle était enfant, elle construisait des poupées avec les branches, voilà, les feuilles du jardin. Oui. Oui, et effectivement, donc cet héritage brésilien, qui se marie avec c'est un univers brésilien qui se marie avec un langage international qui est celui du cubisme, mais on voit bien qu'elle s'approprie ce langage cubiste pour traiter des thèmes brésiliens. Et son idée, elle dit elle-même quand elle rentre à Sao Paulo à la fin de 1923, avoir fini son service militaire cubiste. Ah. Donc elle dit que tous les artistes modernes doivent passer par là. Et donc pour elle, le cubisme n'est pas une façon de répéter un code donné par des maîtres, ou voilà, un langage qui soit pareil pour tout le monde, mais au contraire c'est une façon de apprendre à regarder les choses de manière subjective, donc autrement forcément, et donc c'est de faire une vision conventionnelle des choses et donc inventer elle-même son propre langage, parce que là
c'est un passage en fait.
C'est un parcours méthodologique, mais à partir duquel elle invente son propre langage, parce que à Caipirinha effectivement on peut dire que c'est cubiste, mais c'est pas comme le cubisme qu'on connaît à Paris. Donc c'est son cubisme à elle, et toute la peinture qui suit, parce que là on est donc en 1923, qui est pour Tarsi, là, c'est elle qui le dit, l'année la plus importante de sa carrière, vraiment l'année pivot. Donc je vous disais, elle avait avec ses amis écrivains et peintres ce projet de créer un art brésilien, et donc voilà qu'en 1923 elle a ce déclic, elle a trouvé la clé. Donc à travers le cubisme, elle invente un langage original qui permet de mettre en scène le Brésil comme elle le voit et comme elle le sent, et donc avec beaucoup d'appropriation, hein, on le disait aussi pour la campagne qui ne lui appartient pas complètement, mais donc c'est un choix qu'elle fait de décider quel est son Brésil authentique.
Nous faisons une pause pour écouter Rosa de Pixinguinha et Otávio de Souza, interprété par Paul Oliver.
Divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante pela teu coração, junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do arcante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeador em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Aos pés do Onipotente, em preces comoventes de dor, e receber a unção da tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, e de envolver-te até meu padecer de todo fenecer.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Aujourd'hui, nous recevons Cecilia Braschi pour nous parler de l'exposition Tersila do Amaral, exposition qui se déroule au Musée du Luxembourg jusqu'au 2 février 2025. Et dans les œuvres, il y a la négresse qui est, il me semble, une œuvre qui interroge davantage parce qu'il y a une espèce de dualité entre un hommage à la population afro-brésilienne. Et puis, on peut quand même se poser des questions sur l'illustration de stéréotypes racistes, oui, et féministes.
Et sexistes, plutôt, et sexistes, oui.
Pardon.
Alors, oui, c'est une œuvre qui est très complexe et qui, justement, c'est quand je disais que ça m'intéressait d'amener avec l'œuvre tous les débats les plus actuels. Il faut savoir qu'au Brésil, en ce moment, toute la représentation de la population afrodescendante, et puis en particulier des femmes noires, est un sujet qui est très actuel et très important,
oui,
de résoudre, parce que c'est quelque chose dont on a très peu parlé. Mm-hmm. Et donc ce tableau en particulier, en ce moment, il est au centre de beaucoup de discussions et qu'on a voulu affronter dans cette œuvre. Donc dans le texte qu'il présente, on invite justement à regarder ces personnages de face comme lui nous regarde, parce que ça continue à nous questionner. C'est ça que je trouve, c'est intéressant pour ça, parce que c'est une œuvre qui nous interpelle, qui interpellait déjà du vivant de l'artiste, parce que, alors, c'est une œuvre, on va peut-être un peu la décrire, c'est un personnage, alors c'est difficile de l'appeler portrait, hein, parce que c'est quand on voit les portraits dont on vient de parler, comme les autoportraits, le style de Tersila do Amaral est très différent. Là, c'est une figure de femme noire, assise, mais qui a un style très proche de, par exemple, des sculptures d'art nègre, comme on disait à l'époque, qu'elle voyait à Paris. Donc là aussi, mon regard d'européenne est plutôt porté à penser qu'elle était en train de s'approprier les langages de Brancusi, par exemple, qui la même année avait sculpté la négresse blanche. Elle fréquentait à l'époque Sandra Ars, qui venait d'écrire l'anthologie nègre. Donc elle était vraiment dans cet univers. On pense aux sculptures qui inspiraient aussi beaucoup de tableaux de Picasso. C'était vraiment dans cet univers. Modigliani aussi, effectivement. Et donc, elle est dans cet univers-là. C'est un tableau qui est peint à Paris en 1923. Donc, il faut tenir compte de ça. Par la suite, c'est une iconographie qui rappelle aussi une iconographie traditionnelle brésilienne, ou de cette nourrice universelle, on va dire, que par laquelle les femmes noires sont représentées, mais qui relègue effectivement ces personnages à un rôle très subalterne. Donc c'est très complexe, mais justement aujourd'hui on peut plus l'avoir de manière aussi naïve en se disant, comme il a été dit auparavant, que c'était un hommage à la population afrodescendante. Le fait qu'elle soit représentée de manière tellement différente des autres portraits de Tarsila d'Amaral de la même époque, et le fait que la seule relation que cet artiste a eue avec la population afrodescendante, en réalité, c'est dans une relation d'esclavage, post-esclavage, parce qu'il faut savoir que Tarsila d'Amaral est née deux ans avant l'abrogation de l'esclavage au Brésil. Mmh. Donc, elle est dans cette culture, forcément. Après, son père était un fervent abrogationniste. Donc, encore une fois, c'était une famille plutôt éclairée. Mais n'empêche que la culture brésilienne, l'histoire brésilienne portait tout cela. Donc, il faut aussi contextualiser à ces moments-là. Et on ne peut pas effacer toute cette histoire de son imaginaire. Et donc, mais encore une fois, je pense qu'il y a là un regard et un point de vue brésilien et un imaginaire brésilien, mais aussi un point de vue très parisien, parce que je ne peux pas m'empêcher vraiment de voir tous ces artistes qu'elle côtoie à cette époque-là. Et je pense que le public français, encore aujourd'hui, peut y reconnaître toute cette... je trouve que cette œuvre interpelle aussi, parce qu'ils reconnaissent ce style très parisien, en fin de compte. Et donc, c'est une œuvre qui est importante, en fait, qui a une petite section en soi, avec des dessins aussi qu'elle a fait sur le même sujet, et avec la couverture du livre de Sandra Ars. Alors, comme par hasard, Sandra Ars a choisi cette image pour illustrer son livre sur le voyage qu'il fera donc en 1924, avec la même Tarsila d'Amaral au Brésil.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, donc on parlait donc des artistes que Tarsila a fréquentés à Paris, et elle avait pour compagnon le poète Oswald de Andrade. Alors je ne sais pas lequel a influencé l'autre, c'était peut-être une influence mutuelle.
Oui, absolument. Mais même pas, en fait, quand on parle d'influence, on a l'impression qu'il y en a un qui a reçu de l'autre. Et là, c'est vraiment une création à l'unisson, je dirais, et très complémentaire, en effet. Et ils se complétaient très bien, l'un en littérature et l'autre en peinture. Alors après, dans l'historiographie, on dit souvent que Tarsila d'Amaral a été... inspirée et elle a suivi les enseignements de Oswald de Andrade. Quand on voit les dates des œuvres et des écrits, on voit bien que on dirait plutôt que c'est Oswald de Andrade qui a codifié ce que Tarsila a déjà mis en œuvre dans ses peintures. C'est le cas par exemple du fameux manifeste Pau Brasil.
Oui.
Donc c'est un manifeste que Oswald de Andrade écrit en 1924, mais qui répond à ce que Tarsila d'Amaral a fait en peinture. Et c'est un manifeste où il préconise un type d'art, donc en poésie, en littérature, en art, en musique, brésilien, véritablement brésilien. Et quand il le fait, on dirait vraiment qu'il décrive les peintures que Tarsila a déjà réalisées, à savoir un langage enfantin, simple, naïf, pur, donc ce langage
tricolore.
Oui, alors les couleurs, des couleurs franches aussi, simples, primaires. Mmh. Et donc il y a toute une série de codes qu'il invite à adopter dans cet art Pau Brasil. Mais alors le sens de, ne serait-ce que, alors le mot déjà nous dit quelque chose, c'est que cet art brésilien, Pau Brasil, c'est le nom de l'arbre qui donne le nom au pays lui-même. Mmh. Et Pau Brasil était l'arbre qu'on exportait pendant la colonisation. C'était la matière première par excellence de ce pays. Et alors dans...
C'était pour les teintures, non?
Pour la teinture, oui. Oui. Brésil, ça veut dire vraiment la braise, donc on le fait brûler, c'est une teinture rouge. Ouais. Tout à fait. Et donc il était très convoité de teintes de la colonie. Et alors dire que la culture brésilienne, c'est une culture Pau Brasil, ça veut dire que la culture brésilienne est prête à être exportée. Donc les Brésiliens ne sont plus ce peuple qui exporte la matière première pour recevoir une culture déjà faite, qui sont obligés à copier, comme ça a été toujours le cas pour dans la culture brésilienne. Ils ont notamment la culture française était très importante, mais c'est comme si les colonisés sont toujours obligés de copier ce qui vient des centres. Okay. Et donc là, le discours de Oswald de Andrade et donc de l'œuvre de Tarsila do Amaral, c'est de dire le brésilien ne sont pas un peuple qui exporte la matière première pour récupérer une culture déjà faite, prête à porter. C'est nous-mêmes qui exportons notre culture véritable. Et donc, tout ce code stylistique permet de créer un art véritablement brésilien dans lequel il faut inclure toute la complexité et toutes les différences de l'univers brésilien. Et c'est là où, encore, il y a toute une sorte d'appropriation, parce que Tarsila do Amaral commence à étudier alors les cultures autochtones pour intégrer des contes, des récits, des personnages. Et elle représente, donc elle va pour la première fois au carnaval de Rio de Janeiro, toujours accompagnée de Sandrars, et représente la favela dans une façon très idéalisée aussi. Donc il y a une volonté, c'est très idéologique aussi comme appropriation de son pays pour dire on est un peuple uni et harmonieux dans toute notre diversité.
Et en fait, les contes et les mythes, ils sont présents aussi dans l'œuvre de Tarsila.
Oui.
On voit dans la Cuca.
La Cuca, oui,
on le voit aussi.
Ouais. Oui, ouais. C'est vrai. Alors, la Cuca, c'est un fameux croque-mitaine que tous les enfants brésiliens connaissent bien. Donc, c'est un personnage qui est censé effrayer les enfants. Et dans ce tableau, Tarsila do Amaral écrit une lettre à sa fille en disant « Tu verras, je suis en train de faire un tableau très intéressant avec plein d'animaux à inventer. » Et quand on va voir et qu'on voit le dessin préparatoire, on s'aperçoit que ces personnages inventés, en réalité, ils viennent justement d'un patrimoine autochtone, précolonial, qu'elle a étudié dans les musées, notamment dans le musée de la ville de São Paulo. Et on a aussi un projet de ballet qu'elle avait à la même époque qu'elle était en train de préparer avec... malheureusement, il n'a pas eu lieu. Alors, c'était sur le modèle des ballets suédois et des ballets russes. Elle allait toujours au théâtre à Paris voir ça. Et donc, ils avaient un projet de ballet brésilien avec les décors de Tarsila do Amaral, la musique de Heitor Villa-Lobos, donc un grand musicien très ami de Osvaldo et Tarsila, et donc le livret bien sûr écrit par Osvaldo Andrade. Et donc on a les décors de Tarsila dans des dessins très intéressants où elle mélange justement toute la culture syncrétique et autochtone du Brésil.
Thank you.
venons d'écouter Choro numéro 1 de Heitor Villa-Lobos.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Terciola fait aussi des dessins et des aquarelles qui sont magnifiques, je trouve, de très sobres en fait.
Oui.
Et quelle est leur place en fait dans son œuvre?
Oui, on montre beaucoup des dessins à propos parce qu'effectivement ils sont moins connus que ses peintures, mais ils sont vraiment très intéressants. Surtout qu'elle a une façon de, il a une ligne déjà très limpide et très claire et très moderne en fait. Mm-hmm. Beaucoup de personnes ont dit que ça fait presque penser à la bande dessinée. Et donc, on voit que...
Il y a des traits un peu à la Matisse aussi, je trouve.
Oui, voilà, oui, c'est cette ligne claire. Oui, en effet. Et on voit bien que c'est vraiment une façon de réfléchir, parce qu'il y a certains types de dessins où on voit la rapidité du geste, même si c'est toujours très clair et très linéaire, mais la rapidité des croquis faits sur le motif, comme pendant son voyage... ce voyage qu'elle appelle de redécouverte du Brésil en 1924, donc quand elle décide de représenter le Brésil profond, comme elle dit. Et donc, on a des dessins pris sur les vifs où elle essaie de croquer les arbres de Rio, les églises baroques de Minas Gerais. Et puis, on a d'autres dessins où vraiment, on dirait qu'elle codifie des images d'une manière très claire et on voit très bien que c'est une réflexion sur ce motif et pas juste des brouillons, des esquisses. Par exemple, le dessin de la Negra aussi, la négresse, elle est très... Et puis tous les dessins de Sao Paulo, et ces petites bestioles aussi qu'on retrouve dans les dessins anthropophages,
oui,
je les trouve vraiment très beaux.
Oui, des petites bestioles, oui, c'est amusant, oui. L'interview a été malheureusement coupée à ce moment. Elle se poursuivait sur le mouvement anthropophage dont Cecilia Braschi parle ainsi dans le catalogue de l'exposition. Au Brésil, dans les années 1920, pour Oswald de Andrade et le groupe des modernistes de São Paulo, parmi lesquels Tarsila do Amaral, l'anthropophagie semble l'allégorie idoine pour représenter le rapport entre colonisés et colonisateurs. L'apport des premiers est déterminant, car dans l'action cannibale, le choix de ce qui doit être consommé revient à celui qui se nourrit de l'autre. Le rapport de pouvoir entre les deux est ainsi inversé. L'Européen, qui s'impose dans la colonie par la violence, se voit, en retour, fragmenté par l'autre. L'un des passages les plus célèbres du manifeste met en évidence cette perspective. « Seul m'intéresse ce qui n'est pas mien. » Loi de l'homme, loi de l'anthropophage. Il convient de rappeler que le manifeste anthropophage est le second manifeste signé par Oswald de Andrade. À la différence du premier manifeste Pau Brasil, publié en 1924, le manifeste anthropophage considère la culture européenne comme un élément d'emprunt que la culture brésilienne peut avaler selon ce qui l'intéresse. En 1928, c'est la figure de Abopuru, en langue indigène Tupi-Guarani, homme qui mange un autre homme, qui donne naissance donc au mouvement anthropophage. Faisant référence à la pratique indigène de dévoration de l'autre dans le but d'assimiler ses qualités, l'anthropophagie décrit métaphoriquement le mode d'appropriation et de réélaboration constructive de la part des Brésiliens, des cultures étrangères et colonisatrices. À titre d'illustration, on peut admirer dans cette exposition l'huile sur toile de Tarsila do Amaral qui s'appelle Cartão Postal, carte postale, de 1929. Dans cette carte postale anthropophage, plusieurs paysages brésiliens sont réunis autour de l'incontournable pain de sucre évoquant la ville de Rio de Janeiro. Dans cet environnement, Tarsila rassemble tous les éléments du vocabulaire qu'elle a créé depuis 1924. La mer peut cohabiter avec les cactus du désert et les palmiers des villes du sud du Brésil avec la végétation tropicale de la forêt amazonienne. D'étranges animaux autochtones, à mi-chemin entre singes et paresseux, avec des mains presque humaines, habitent l'univers paisible d'un peuple qui, à la différence des Européens, n'a jamais fait la distinction entre urbain, suburbain, frontalier et continental. Et vit paresseux dans la map monde du Brésil, ainsi que le décrit le manifeste anthropophage. Merci encore à Cecilia Braschi de nous avoir accordé cet entretien. Je vous recommande vivement d'aller voir l'exposition Tersila Douamaral au Musée du Luxembourg jusqu'au 5 février 2025. Et je vous laisse encore sur un morceau de musique. À très bientôt sur Lusitania et sur Allegre FM. Au revoir. Nous nous quittons avec Preciso de me encontrar.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrisa, não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrisa, não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrisa, não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar,
preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.